Le débat africain. Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. Durant près d'une heure, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine, commentée et analysée par des journalistes et éditorialistes africains. Avec nous en ligne d'Abidjan, Fatim Djedjé, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à la RTI, vous présentez le magazine d'information Ailleurs dans le monde. J'ai également le plaisir d'accueillir Thierry Kabundi, rédacteur en chef de la radio Top Congo FM à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous présentez le magazine Parlons-en et vous co-présentez le débat. Et nous avons également contacté à Dakar, Ousseynou Narguey. Bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Éditorialiste et fondateur du site d'information tract.sn, bienvenue à tous les trois dans le débat africain. Parmi les moments forts de la semaine, nous reviendrons sur la situation en Haïti après la démission du très impopulaire Premier ministre Ariel Henry. Le pays se dirige-t-il désormais vers une sortie de crise? Nous parlerons de l'élection présidentielle en Russie, un scrutin sans véritables opposants. Pourquoi une telle mise en scène électorale, nous lancerons le débat et nous parlerons également de cette annonce très commentée en République démocratique du Congo, une possible rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Mais d'abord, à la une du débat africain, le Sénégal avec la libération jeudi soir aux alentours de minuit d'Ousmane Sonko, le principal opposant du pays, et Bassirou Diomaye Faye, son bras droit et candidat désigné pour le remplacer dans la course à la présidentielle prévue dans tout juste une semaine. Écoutez la joie de leurs partisans.
Oui, c'est juste pour voir mon candidat. Il a beaucoup soulagé et ça nous a fait plaisir de le voir sortir. Moi, j'ai 65 ans, c'est pour la première fois que je vois ça. Quand Senghor Paté, j'étais jeune, mais j'étais là. Abdou Diouf, Ablaye Wade, mais c'est pour la première fois que je vois ça.
C'est un renouveau, c'est un nouveau Sénégal. Et en fait, là, on se rend compte que la jeunesse est vraiment consciente des enjeux et de ce qu'on veut pour le pays, ce qui va nous aider à nous développer. En tout cas, on espère. C'est l'espoir qu'on a.
En fait, comme le jour que le Sénégal avait remporté la CAN, ouais, on est trop contents. C'est lui qui porte notre projet.
Bon, on est là parce qu'on est content d'abord de la nouvelle. Mais c'est une fierté parce que Macky Sall, c'est lui-même qui l'avait emprisonné injustement. Aujourd'hui, je pense qu'il a retrouvé sa conscience quand même pour le libérer.
La jeunesse sénégalaise veut le changement et c'est Ousmane Sonko qui incarne ce changement-là. Parce que c'est lui qui incarne le changement que l'on veut. C'est une révolution pacifique, démocratique, donc Ousmane Sonko incarne tout cela.
Des scènes de liesse dans les rues de Dakar après la libération d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, acclamés par la foule. Ousseynou Narguey à Dakar, ces libérations étaient bien évidemment très attendues. Elles permettent de décrisper définitivement le climat politique.
Oui, libération très attendue. Les scènes de liesse populaire, je ne suis pas sorti de chez moi, mais je les entendais. Depuis la prison du Cap Manuel jusqu'à la résidence à la cité Cor Gourgui, celui que RFI, comme les autres rédactions du Monde, appelle le principal opposant du Sénégal, Ousmane Sonko. J'habite à 200 mètres de chez lui, donc j'ai pu entendre le concert jusque tard. Oui, ça contribue incontestablement à décrisper le climat politique et l'élection qui s'en vient. Mais en même temps, je pense que Macky Sall a fait passer une loi d'amnistie l'autre mercredi qui, quelque part, assure que ceux dans son appareil politique comme dans l'appareil d'État qui ont pu commettre des exactions à l'occasion des manifestations politiques ne seront pas poursuivis après son départ, Macky Sall, le 2 avril. Et dans le même temps, je pense que oui, en échange, il se devait, pour permettre à tout le monde de larguer les amarres et de se lancer sur la mer peu tranquille de la course à la présidentielle, de libérer Ousmane Sonko et son clone, qui est le candidat de l'ex-PASTEF, Bassirou Diomaye Faye.
Ouais. Fatim Djedjé à Abidjan, cette loi d'amnistie, effectivement, qui a permis la libération des opposants, cette loi risque aujourd'hui de créer des frustrations, puisqu'effectivement, la loi va empêcher de juger les coupables qui sont à l'origine des crimes, des délits commis lors des manifestations de 2021 jusqu'à février dernier. Cette loi, finalement, elle est à double tranchant.
Oui, tout à fait. C'est la problématique avec ce genre de loi d'amnistie. C'est que, effectivement, pour le cas Sonko, vu des griefs contre sa personne, dont beaucoup doutaient de la réalité, c'est comme une réparation de justice. Mais il s'avère que d'autres qui sont, au vu des lois, des criminels, vont pouvoir y échapper, s'extraire de cette justice. Maintenant, moi, là où je mets un bémol, c'est que j'entends ce que nos collègues viennent de dire. Mais le problème qui se pose avec nos États encore fragiles dans leur construction politique et démocratique, c'est qu'à un moment donné, pour éviter un éternel recommencement, ces lois aussi participent à comme une certaine mise à plat, puisqu'on sait que politiquement, nos dirigeants sont loin d'être irréprochables. Et si l'opposition arrive au pouvoir, ce qu'elle tente régulièrement, on n'a pas d'alternance politique. Et si elle devient effective, on risque une chasse aux sorcières. On risque, même si au devant la loi, c'est justifié, on risque encore cet éternel recommencement et cet esprit de revanche qui habitent beaucoup de nos opposants, parfois légitimement.
N'eût été cette loi d'amnistie, Ousmane Sonko et Bassirou Ousmane Faye seraient encore en prison. C'est une loi quand même voulue par Macky Sall. Thierry Kabundi de Top Congo FM à Kinshasa. Est-ce que depuis jeudi, le président Macky Sall n'a pas redoré son image ?
On peut dire cela en quelque sorte, hein, mais je me demande bien pourquoi on devait justement attendre que les choses se passent comme elles se sont passées depuis son annonce du report des élections pour en arriver là. Donc toutes les décisions et tous les faits qui ont suivi la décision du président Macky Sall ont montré que les élections pouvaient se dérouler conformément au calendrier qui était rendu public, et que si auparavant, en amont, le climat politique était un peu plus apaisé, on n'avait pas besoin justement de passer par ces dialogues, par toutes ces décisions prises par le président, contestées par la Cour, retoquées on va dire par la Cour pour en arriver à ce que son image soit lavée au plan national comme international. Il ne faut pas oublier que, entre-temps, des manifestations qui ont été organisées contre la décision du président Macky Sall ont provoqué mort d'homme. Il ne faut pas oublier que depuis 2021, que les manifestations politiques ont commencé, malheureusement, de nombreux Sénégalais ont perdu leur vie.
60, donc, selon Amnesty International.
Voilà, justement, ouais. Hein, c'est un prix très lourd que la démocratie sénégalaise paye pour en arriver là. Je pense, à mon avis, qu'on aurait dû prendre certaines décisions en amont pour apaiser davantage le climat politique et qu'on ne devait pas attendre que la situation se détériore à ce point pour en arriver à laver l'image du président de la République la démocratie sénégalaise.
Ousseynou Narguey à Dakar, il sort grandi, Macky Sall, en termes d'image à l'échelle nationale, continentale et même internationale.
Écoutez, déjà sur l'intervention de notre consoeur, je pense que les Sénégalais dans leur psyché collective ne sont pas dans l'esprit de vengeance, mais plutôt dans l'esprit de Zorro qui se veut justifier quand il estime qu'une personnalité, un personnage est injustement spolié de ses droits. Ça, c'est une chose. Oui, les nations du monde entier, la communauté internationale, a appelé Macky Sall à organiser ces élections-là dans les meilleurs délais, pour reprendre l'expression du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire avant son départ du 2 avril du pouvoir. Je pense qu'en libérant Ousmane Sonko et Diomaye Bassirou, Macky Sall fait la preuve que finalement, il ne va pas entraver le résultat possible de cette élection, dont il me semble que, un, elle sera à deux tours, deux, le candidat du pouvoir, l'ex-premier ministre Amadou Ba, sera en posture très délicate pour pouvoir l'emporter. Et certainement pas au premier tour.
Donc vous voyez, vous, un second tour. Pas de coup KO, Fatim Djedjé, au Sénégal, la semaine prochaine ?
Alors, je ne pourrais pas lire dans les astres. Je voudrais aussi préciser à mon confrère que je ne suis pas pour l'impunité, mais qu'elle accompagne de facto cette loi d'amnistie. Mais je montrerai la problématique un peu plus d'une manière globale, sur le continent africain, pas que le cas sénégalais dont on parle actuellement. Il semble indéniable que Sonko, ou même son représentant Diomaye, soit populaire. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une ferveur populaire le concernant. Mais il est difficile pour moi de vous dire qu'il sera un coup KO, puisque je ne vote pas et je ne suis pas dans les urnes.
Thierry Kabundi, Bassirou Diomaye Faye est donc sur le terrain depuis vendredi. Il va à la rencontre des électeurs. Vous pensez qu'il peut rattraper quand même le retard dans sa campagne ?
Il se retrouve avec 8 jours de moins, mais il me semble que ses équipes étaient déjà sur le terrain et étaient déjà en train de faire le travail. J'ai suivi que sa vidéo de campagne n'était pas validée puisqu'il n'y avait pas son image, d'autant plus qu'il était incarcéré. Aujourd'hui, qu'il arrive et qu'il trouve que l'ex-PASTEF a déjà commencé à faire le travail, la campagne sur le terrain, il devrait se rattraper très vite. 8 jours, c'est peu pour une campagne électorale, mais c'est beaucoup aussi. Donc il y a moyen de faire le nécessaire. J'ai vu également la mobilisation qu'il y a eu autour de sa libération, ainsi qu'Ousmane Sonko hier. Je crois que c'est possible en 8 jours de faire quelque chose pour essayer de rattraper du retard qui était pris sur le terrain, quand bien même, et je le souligne, les équipes faisaient déjà le travail en amont sur le terrain, d'autant plus que Bassirou Diomaye Faye était parmi les 19 candidats retenus, donc... pour cette élection.
Le Sénégal dans la dernière ligne droite en vue de la présidentielle. La campagne électorale, c'est à suivre dans nos journaux et sur nos environnements numériques.
Le débat africain.
J'aimerais vous entendre maintenant sur la possible rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, une rencontre annoncée en début de semaine par l'Angola pour discuter de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où les affrontements se sont intensifiés ces dernières semaines entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, des rebelles dont le soutien du Rwanda est dénoncé par l'ONU, par la RDC, ce que Kigali a toujours formellement démenti. En tout cas, le président congolais et son homologue rwandais ont donné leur accord de principe pour se revoir prochainement. Thierry Kabundi de Top Congo FM à Kinshasa, faut-il se réjouir de cette possible rencontre?
Vous savez, Juan, dans toutes les histoires des conflits à travers le monde, nous ont enseigné que la fin, c'est toujours le dialogue. Hein, la fin de tous les conflits se termine toujours autour d'une table à discuter. Donc, un citoyen du monde comme moi, un intellectuel comme moi, un journaliste comme moi, ne peut que saluer une rencontre entre deux protagonistes, surtout si l'objectif final est de ramener la paix,
oui,
dans l'est de la République démocratique du Congo.
J'entends une note d'espoir, Thierry Kabundi, dans vos propos, mais enfin, il faut quand même rappeler que Félix Tshisekedi fixe ses conditions pour revoir Paul Kagame.
Justement,
et je le rappelle aux auditeurs, il exige quand même le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais. Le problème, c'est que le Rwanda nie toute présence en RDC. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi ne demande pas l'impossible?
J'étais justement en train d'y arriver. Oui, le principe du dialogue ne peut être que salué. Mais dialogue à quel prix et dialogue pour parler de quoi? C'est plutôt le contenu, c'est plutôt l'approche de ce dialogue qui questionne aujourd'hui. Le Rwanda, vous l'avez dit et répété, continue de nier sa présence, même si ce n'est un secret pour personne, parce que vous avez cité les Nations Unies et la République démocratique du Congo, mais il y a la France, il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis qui ont demandé formellement au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Donc toute la communauté internationale est au courant et sait que le Rwanda appuie le M23. Le M23 n'existe que par le Rwanda, peu importe la posture de Kigali. Maintenant, le problème va se poser au niveau des préalables. Vous avez bien fait de répéter que Kinshasa a accepté que Félix Tshisekedi rencontre Paul Kagame, mais sous certaines conditions, notamment le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Quand on sait que tous les précédents rendez-vous, notamment le tout dernier à l'occasion du sommet de l'Union africaine, tous les précédentes rencontres ont capoté autour de ces exigences.
Oui.
Quand on sait que Nairobi...
Et la dernière rencontre s'est même terminée en insulte, hein, d'après plusieurs sources diplomatiques. Fatim Djedjé à Abidjan de la RTI. Est-ce que Félix Tshisekedi ne risque pas d'attendre longtemps avant de voir les troupes rwandaises quitter son pays?
Immédiatement, c'est sûr que ça semble être un vœu pieux, puisque le collègue l'a dit, nombreux d'autres intervenants ont tenté de faire entendre raison à Paul Kagame. Effectivement, moi, la diplomatie, j'aimerais rappeler qu'elle a quand même certaines règles. Et il y a eu beaucoup de sorties récemment de Tshisekedi qui, je ne sais pas si elles vont aider à ce dialogue. Effectivement, le Congo est victime, on l'entend aisément. On a eu des rapprochements il n'y a pas si longtemps. On a vu que le dialogue avait été possible. Ce dialogue est définitivement actuellement rompu. Et quelque part, à la faveur de la dernière élection présidentielle, ce dossier que l'on suit vraiment avec beaucoup de tristesse, ce qui se passe dans le Nord Kivu, dure depuis des années. Et c'est vrai qu'on a vu un Tshisekedi, on peut se révéler comme peut-être même de guerre.
Chef de guerre, bah, on se souvient notamment de ce meeting à Kinshasa où il avait même menacé de déclarer la guerre au Rwanda. Là, visiblement, il a envie de s'asseoir aux côtés de Paul Kagame, en fixant évidemment ses conditions. Ousseynou Narguey, à Dakar, au Sénégal, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, l'option militaire, ce n'est plus une priorité pour Félix Tshisekedi. Et qu'en 3 mois, il a changé de stratégie.
Oui, parce qu'il n'en a pas vraiment les moyens de cette option militaire-là. Dans un pays, le Congo-Kinshasa, qui a fait appel à la MONUSCO pendant 20 ans pour se rendre compte, ou en tout cas contester le fait qu'il n'y a pas de résultat de cette MONUSCO, qui est une force d'interposition, mais qui ne pourchasse pas les rebelles et ne les réduit pas à néant. Donc je crois aussi que, avec tout le respect de ce grand que je dois à ce grand pays, que les forces armées congolaises ne sont pas si équipées ni si affûtées que cela. Donc je crois que l'option militaire est d'autant plus exclue pour le Congo que les centaines de milliards que l'Occident déverse en faveur de l'Ukraine, on ne le consentira jamais au Congo-Kinshasa. Donc, ouais, ils sont obligés d'aller à la table de négociation.
Mais alors justement, obligés d'aller à la table des négociations, Thierry Kabundi de Top Congo FM à Kinshasa, est-ce qu'on peut négocier en position de faiblesse? On voit que de semaine en semaine, les rebelles du M23 gagnent du terrain. Comment peut-on, dans cette situation, dans ce contexte-là, négocier et exiger des choses aux voisins rwandais?
Il sera difficile pour la diplomatie congolaise d'obtenir le recul ou le retrait des troupes rwandaises du président Paul Kagame, puisque la réalité, malheureusement, sur le terrain, avec une armée congolaise en reconstruction et un problème de coordination avec toutes ses forces alliées, fait que voilà, le M23 ces dernières semaines a enregistré quelques succès. Donc il sera difficile pour Kinshasa d'obtenir quoi que ce soit de Paul Kagame, parce que ce n'est pas pour la première fois justement que l'on se met autour d'une table pour discuter. L'expérience renseigne ici en République démocratique du Congo que le seul langage que Paul Kagame semble écouter est le langage soit des armes, soit des sanctions. Rappelez-vous que l'aventure du M23 en 2013 s'est arrêtée, puisque justement tous ces pays qui appuient le Rwanda, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union européenne, etc., ont suspendu leur soutien financier, leur appui budgétaire au Rwanda.
Donc ça veut dire, et je m'adresse à Fatim, Fatim Djedjé, allez-y, vous avez envie de prendre la parole.
Oui, ces pays, on l'a vu récemment avec l'Union européenne, continuent à tracter business is business, ils continuent à justement à traiter avec le Rwanda, qui est un acteur clé dans la sous-région pour plusieurs raisons. Et je voulais compléter ce que je disais tout à l'heure, que Tshisekedi, avec cette posture, j'ai peur qu'il se piège lui-même. Comme les confrères l'ont dit, il n'a pas les moyens de ses ambitions actuellement. Et c'est peut-être même ce qui explique, avec des guillemets, comprenez-moi, instrumentalisation de ce débat par rapport à la population sur le plan national, international.
Ah bah la population, on sent clairement que le président Tshisekedi est sous pression, la pression populaire. On a bien entendu les sympathisants, les électeurs durant la campagne électorale. Ce qu'ils veulent, c'est la fin de cette guerre qui a trop duré, Ousseynou Narguey.
Oui, pression populaire que le président Félix Tshisekedi s'est lui-même mis en indexant pendant la campagne électorale nommément le Rwanda comme l'ennemi qu'il fallait bouter hors des frontières du Congo. Ce que je constate, c'est que le M23, dont on dit qu'il est instrumenté par le Rwanda, est aux portes de Goma, voilà, qui est un symbole et dont on avait dit que le M23 ne l'atteindrait jamais. Mais ce que je pense surtout, c'est qu'on ne va pas à des négociations en posant des conditions. On y va en tant que personne animée par la bonne volonté d'être un homme de paix et on ne pose pas de conditions. Donc je pense que cette rencontre entre Tshisekedi et Kagame est plus hypothétique que possible.
Oui. On verra si ce projet se concrétisera dans les prochaines semaines et on aura l'occasion évidemment de revenir très prochainement sur les relations tendues entre la RDC et le Rwanda. On marque une pause pour le point complet sur l'actualité. On revient dans 10 minutes. Nous parlerons de la transition qui commence en Haïti après la démission du Premier ministre Ariel Henry et nous commenterons l'élection présidentielle en Russie. Pourquoi une telle mise en scène ?
Le débat africain, Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez. L'actualité de la semaine vue par trois journalistes et éditorialistes africains. Nous sommes toujours en compagnie de Fatim Djedjé, en ligne d'Abidjan, journaliste à la RTI, radio-télévision ivoirienne. Ousseynou Narguey à Dakar, éditorialiste et fondateur du site information tract.sn. Et Thierry Kabundi, rédacteur en chef de la radio Top Congo FM à Kinshasa. Ce dimanche, l'actualité est marquée par l'élection en Russie. Depuis vendredi, les Russes sont appelés aux urnes. Ils ont jusqu'à ce soir pour élire leur président. Seulement voilà, comme en 2000, en 2004, en 2012 et en 2018, Vladimir Poutine est assuré de remporter le scrutin, et ce, dès le premier tour, à tel point que l'homme fort du Kremlin n'a même pas daigné organiser le moindre meeting et encore moins participer à un débat télévisé avec ses trois concurrents. C'est donc une présidentielle jouée d'avance. Avant de vous entendre sur la légitimité du scrutin, Fatim Djedjé à Abidjan, quelle image vous renvoie Vladimir Poutine, l'ancien agent du KGB, devenu président il y a maintenant près d'un quart de siècle?
Alors, je ne vais pas parler de mon avis personnel, mais peut-être ce que j'entends et comprends de mes compatriotes et peut-être qui est peut-être représentatif d'une partie de l'Afrique. Vladimir Poutine, contrairement à ce que pense l'Occident, a quand même une certaine bonne image. Bonne image parce qu'il représente celui qui défie encore l'Occident, celui qui tient tête, pour être plus clair. Et puis, il met souvent en scène toutes les représentations possibles et imaginables d'une sorte de virilité. Il a cette main de fer, comme on dit. Je tiens à mettre un petit bémol, c'est le conflit en Ukraine. Je ne peux pas dire que tout le monde soit d'accord, mais ce qu'il y a, c'est que son image reste extrêmement positive.
En tout cas, il est perçu, dites-vous, comme l'homme qui défie l'Occident. Thierry Kabundi à Kinshasa de Top Congo FM. Vladimir Poutine, c'est aussi un président qui s'accroche au pouvoir.
Oui, qui s'accroche au pouvoir, mais qui le fait sur base des textes de son pays. On se rappelle qu'à un moment donné, il a dû céder son fauteuil à son premier ministre pour revenir par la suite parce que la constitution de son pays le lui imposait. Oui. Aujourd'hui, il est là.
Entre-temps, il a quand même révisé la constitution en 2020 et n'eût été cette révision constitutionnelle, il aurait dû quitter le Kremlin, pour ainsi dire, ce soir.
C'est clair qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Maintenant, pour revenir à l'image qu'il dégage ici sur le continent africain, je partage le point de vue de ma consoeur dans le sens où Vladimir Poutine aujourd'hui, dans l'opinion africaine, est considéré comme celui qui tient tête aux Occidentaux. Et quand on sait aujourd'hui la problématique des relations qu'il y a entre la France et certaines de ses anciennes colonies, entre l'Occident de manière générale et certains pays africains, ce qu'offre aujourd'hui la Russie dans ses relations avec le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso, oui, il jouit d'une certaine image positive sur le continent, même si on ne peut pas oublier la guerre injuste qu'il impose à l'Ukraine.
Alors justement, en parlant de cette guerre, Ousseynou Narguey, on voit bien que les trois candidats qui se présentent face à Vladimir Poutine soutiennent la guerre en Ukraine. Et c'est d'ailleurs une des conditions pour pouvoir se présenter. On se retrouve donc avec quatre candidats, quatre partisans de cette guerre. Et encore, le terme guerre, ce n'est pas la terminologie officielle utilisée par le Kremlin. Pourquoi une telle mise en scène électorale? Pourquoi un tel simulacre, selon vous, Ousseynou Narguey à Dakar?
Oui, effectivement, la Russie appelle cette guerre-là opération spéciale. Je pense que ce n'est pas l'apanage des trois autres candidats possiblement opposants de soutenir cette guerre-là. Une gazette russe cette semaine, lue dans Courrier International, dit que 65% des Russes soutiennent l'invasion de l'Ukraine. Ils étaient 59% un an plus tôt. Donc,
mais justement, Ousseynou Narguey, si 65% de la population soutient cette guerre, pourquoi ne choisir que des candidats favorables à la guerre? On pourrait entendre un minimum d'opposition, puisqu'au final, une majorité de Russes, si on en croit le sondage que vous venez de citer, voterait pour Vladimir Poutine, voterait pour la poursuite de cette guerre.
Non, on ne pourrait pas avoir des opposants opposés à la ligne officielle parce que Vladimir Poutine n'organise des élections que pour le décorum. Le rituel des élections, c'est le langage de l'Occident. Donc, pour ne pas se faire j'allais dire, enquiquinée aux chantournures. Vladimir Poutine organise des élections, mais c'est pour les gagner.
Fatim Djedjé à Dakar, évidemment qu'il organise des élections pour les gagner, mais pourquoi une telle mise en scène? Quel est le but?
Non, mais mon confrère l'a bien résumé, et on le vit aussi dans nos États africains. C'est-à-dire qu'on assiste à des simulacres d'élections et on a des opposants de fafa, de façade. Donc on est très bien. En cela, il est vraiment compatible avec l'Afrique.
Ouais. Mais l'idée justement de fausser à tel point cette élection, c'est quoi? C'est de dire, regardez le score que je fais. Et c'est une façon de dire aux Occidentaux, non, en fait, voyez comment cette guerre, elle est soutenue.
Moi, je dissocie peut-être la gouvernance de Vladimir Poutine de la guerre en Ukraine. Vu de l'Occident ou certains autres pays, comme a dit les confrères, on peut peut-être émettre l'idée que c'était une guerre injuste. Mais n'oubliez pas que pour les Russes et la reconquête de cet ancien empire perdu, il y a certainement une justification, une légitimité. Donc je pense qu'il faut dissocier les deux.
Où c'est nous l'argueil, que dites-vous?
Voilà. Oui, je pointais du doigt le fait que l'élection est organisée aussi dans les territoires annexés par la Russie, que ce soit en Ukraine, que ce soit la Crimée qui a été complètement annexée ou la Transnistrie. Je pense que même s'il ne peut pas faire revenir le Soviet suprême, Vladimir Poutine s'oppose en petit père des peuples, non seulement de la Russie, mais de tout ce qui a été la zone d'influence passée de l'URSS.
Ouais, en tout cas, l'opposition est réduite au silence. On ne l'a pas entendu, évidemment, durant la campagne électorale, puisque les véritables opposants sont soit exilés, soit, malheureusement, pour certains, ont été éliminés. La principale initiative, en tout cas, de l'opposition a été d'appeler les Russes à aller dans les bureaux de vote ce dimanche à midi pile pour exprimer leur désaccord avec cette élection. Cette opération, elle était soutenue par Alexeï Navalny juste avant sa mort. Ousenou Narguey à Dakar, cette opération midi contre Poutine, bon, c'est avant tout une initiative symbolique.
Oui, absolument. Elle est surtout symbolique. Mais je fais remarquer que midi dimanche, on aura commencé l'élection présidentielle en Russie 3 jours auparavant, depuis le 15 jusqu'au 17. En plus, il y a un vote électronique. Donc, je pense que tout cela concourt plutôt à un score à la soviétique pour Vladimir Poutine.
Oui, alors justement, en parlant de score, Fatim Djedjé, Vladimir Poutine se doit de faire mieux que lors de la précédente élection. Je rappelle qu'il avait obtenu près de 77%. Là, il se présente quand même en tant que chef de guerre. S'il veut démontrer au monde entier que sa guerre est soutenue, il doit forcément faire plus que 77%.
Alors peut-être, je ne sais pas, puisque je pense que l'objectif principal, c'est qu'il gagne. Maintenant, s'il a un score, mon confrère disait soviétique, à l'époque on disait aussi africain, tant mieux, ça va peut-être renforcer la symbolique de son pouvoir, mais je pense que l'objectif principal, c'est qu'il gagne, et le score me semble accessoire.
Ouais. On connaît l'importance grandissante de l'Afrique pour la Russie. Vous en parliez tout à l'heure, mon cher Ousenou Narguey. On se souvient évidemment du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg l'été dernier. Il y avait quand même pas moins de 49 pays sur les 54 que compte le continent. Fatim Djedjé d'Abidjan, est-ce que le continent africain peut trouver son compte dans la réélection de Vladimir Poutine?
Alors, bonne question. Je pense, de facto, pour nos pays qui subissent actuellement donc des ruptures de constitutionnelles, à savoir les membres de l'AES. Hein,
Mali, Burkina Faso, Niger.
Tout à fait, puisqu'ils ont déjà un rapprochement plus poussé que d'autres États. Maintenant, de manière générale, moi j'ai quelques interrogations, à savoir si la Russie a autre chose à offrir que des armes aux pays africains. Elle vient de se faire un peu dépassé par la France sur ces questions-là. On a vu aussi l'intérêt des relations avec les Russes par rapport à la crise sur les denrées, sur le blé. C'est aussi un acteur qui joue de ça, mais factuel, qui n'a pas de passif avec le continent africain, qui n'a pas de passé colonial. Oui. Donc là aussi, ça participe dans l'imagerie collective à redorer le blason de l'ex-URSS et en tout cas des Russes actuellement. Effectivement, maintenant, en termes de diplomatie, on l'a vu aussi au niveau du vote contre l'Ukraine, les pays africains veulent quelque part mettre fin à ces relations qu'elles trouvent tout sauf d'égal à égal avec les anciennes puissances coloniales. Je m'interroge sur l'aspect économique, que la Russie est en guerre. En tout cas, le budget de l'État est forcément concentré sur cet aspect-là. Oui. Donc maintenant, les États africains ont besoin d'aide, d'investissement. Est-ce que la Russie pourra y répondre? C'est vraiment la grande interrogation.
Oui, à Kinshasa, Thierry Kabundi, avec la réélection de Vladimir Poutine, est-ce qu'il faut s'attendre à un accroissement de l'expansionnisme russe sur le continent africain?
J'irai dans le même sens que ma consoeur pour dire que la Russie aujourd'hui, pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et même dans une certaine mesure la Centrafrique, est un partenaire stratégique. Il y a quelques mois, je pense l'année dernière, le ministre des Affaires étrangères russe a effectué une tournée sur le continent africain dans le souci justement d'élargir son champ d'impact, d'influence sur le continent africain. Mais la vraie question reste de savoir qu'est-ce que la Russie peut offrir au continent africain dans les conditions du moment, parce que l'Afrique a des besoins auxquels la Chine, des besoins auxquels des pays occidentaux essayent dans la mesure du possible, tant bien que mal, de répondre jusqu'ici. Mais la Russie n'est pas encore à ce niveau de concurrence avec...
Allez-y Fatim, JJ à Abidjan.
Sans contredire mon confrère, il ne faut pas minimiser que finalement dans les relations internationales, c'est un rapport de force. Donc déjà sur la symbolique, la Russie apporte aussi un soutien qui n'est pas négligeable sur la scène internationale. La Russie, contrairement aux pays africains, est présente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la Russie peut être un allié de taille sur en fait, ce conflit qui ne dit pas son nom avec les États-Unis d'Amérique et les autres puissances, comme vous dites la Chine, le conflit sino-américain qui est vraiment sous-jacent à presque tous les conflits ou les zones de tension actuellement. Donc la Russie, je pense qu'elle a cet apport-là aussi.
Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que la Russie fait profitant de ce statut, profitant du fait qu'elle soit membre du Conseil de sécurité de l'ONU? Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'ici en faveur du continent africain?
On va arrêter le débat sur la présidentielle en Russie, présidentielle évidemment à suivre dans nos différentes éditions avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants à Moscou et ailleurs. Et c'est à suivre également sur RFI.fr. Je voudrais qu'on aborde un autre moment fort de la semaine. C'était mardi, Haïti, le départ d'Ariel Henry.
Comme toujours dit, pas aucun sacrifice.
Comme je l'ai toujours dit, aucun sacrifice n'est trop grand pour notre pays, Haïti. Après un conseil des ministres tenu ce soir, le gouvernement que je dirige a accepté de mettre en place un conseil présidentiel de transition. Les acteurs devront choisir les membres qui constitueront ce conseil. Mon gouvernement se retirera immédiatement après l'installation de ce conseil, mais il continuera à expédier les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement. Je demande aux Haïtiens de garder leur calme, de travailler pour rétablir un climat de paix dans les meilleurs délais.
Tout ça le plus rapidement possible pour bien payer.
Voilà, le désormais ex-Premier ministre haïtien Ariel Henry contraint la démission sous la pression des États-Unis et de l'organisation régionale CARICOM. Sa démission était réclamée par les Haïtiens, mais aussi par les bandes armées qui sèment la terreur dans le pays. C'est donc une transition qui commence avec la mise en place d'un conseil présidentiel qui sera chargé de préparer les élections. Fatim Djedjé de la RTI, radio-télévision ivoirienne à Abidjan, est-ce que cette démission suscite vraiment de l'espoir?
Alors de l'espoir, ce serait un grand mot, mais en tout cas, ça va dans le sens de l'attente des populations et de la scène politique. On rappelle quand même que ce Premier ministre est cité dans l'assassinat de l'ancien président, qui reste quand même un acte très grave, qui je pense aurait dû sonner l'alerte en 2021 pour montrer que la crise politique haïtienne était vraiment son paroxysme. Alors maintenant, l'espoir, je ne sais pas, puisque Haïti qui est, je pense, au plus bas, mais je pense que cette reconstruction appartient principalement aux Haïtiens, avec ou sans ce Premier ministre qui finalement a démontré qu'il n'a pas pu gérer convenablement la situation de son pays.
Vous disiez que la situation est au plus bas en Haïti. Oussinou Narguey, comment expliquer la situation chaotique de ce pays? Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 4 décennies que la vie politique haïtienne est rythmée par des coups d'État, par des ingérences étrangères, par des élections truquées. Comment en est-on arrivé là?
Oui, et je rajouterai par des présidents chanteurs, je veux dire... Haïti est au plus bas depuis plusieurs décennies, au moins depuis la fin de la dictature des Duvalier père et fils, Et de ce point de vue-là, moi, je vois encore des articles d'il y a 10 ans qui disaient « Haïti ne peut pas être plus bas que cela ». Or, on continue de creuser et on est toujours dans le pire du pire. Haïti, aujourd'hui, de mon point de vue, ce n'est pas un pays où, au sens où on l'entend du point de vue de la communauté internationale, c'est juste un endroit. Je pense que Haïti est dans cette situation-là, peut-être parce qu'elle n'a pas de ressources naturelles minières importantes, parce qu'elle n'est pas une plaque tournante de la drogue, parce que sinon les grands pays de la région, les États-Unis, se seraient intéressés à son cas, comme ils se sont intéressés au cas de Panama, de Porto Rico ou d'autres pays.
C'est un pays donc sans président, sans premier ministre, sans parlement. Les institutions étatiques se sont effondrées. Thierry Kabundi de Top Congo FM à Kinshasa, c'est aussi un pays dont les chefs de gang contrôlent une partie, et notamment 80% de la capitale.
Et c'est ce qui est extrêmement grave. Ça se fait aussi et au vu aussi du monde entier qui ne vient pas justement soutenir à juste titre ce pays qui se meurt, ce pays qui devient pratiquement un non-État, ce pays où les gangs font la loi aujourd'hui. J'ai été interpellé par le fait que le premier pays ces derniers mois a proposé d'intervenir pour arrêter l'hégémonie des gangs, soit un pays africain.
Le Kenya.
Donc justement, c'est extrêmement grave ce qui se passe en Haïti et surtout l'indifférence et du voisin et des voisins de Haïti et de la communauté internationale de manière générale. L'Union européenne a proposé 20 millions d'euros. Les États-Unis ont proposé une centaine de millions de dollars justement pour appuyer cette force internationale.
Mais d'accord, mais Haïti finalement n'est pas si abandonné que ça. Quand on vous entend, vous parlez de l'Union européenne, vous parlez de l'ONU, des États-Unis.
Cet appui financier ne suffit pas. Il faut rendre à ce pays son autorité, sa souveraineté en tant qu'État. Il faut briser, casser, détruire cette hégémonie des gangs, justement. Et cela passe par bien plus que le semblant d'aide et d'attention qu'essayent de montrer les États-Unis ou encore d'autres pays. Il faut autre chose pour que Haïti redevienne un État où va régner la paix, un État où les Haïtiens seront libres de circuler. Aujourd'hui, tous les jours, j'entends des reportages sur RFI et sur d'autres médias qui font pleurer des habitants qui ne savent pas sortir, qui ne savent pas aller s'approvisionner, qui ont peur des gangs, qui se font tuer pour un rien, les hôpitaux qui sont fermés. Il faut faire quelque chose et cela passe par un appui beaucoup plus conséquent, par un soutien qui va rétablir et ramener la paix en Haïti. On ne peut pas se contenter de si peu.
Fatim Djedjé, à Abidjan, vous souhaitez réagir?
Les facteurs qui ont conduit à cette décadence de l'État haïtien, c'est clairement un État failli, comme on le dit. C'est d'abord, il faut le rappeler, c'est vrai qu'on a tous félicité symboliquement le fait que ce soit le premier État noir et le premier État issu finalement d'une révolte des esclaves.
Avec en 1804.
1804, tout à fait. Mais après, il y a eu, il faut le rappeler, par le roi en France, cette dette incompréhensible qui n'a pas aidé et qui a freiné le développement de cet État. Il s'est ajouté après une immixtion américaine avec une invasion clairement en 1915. Et juste avant aussi, rappelons-le, il y avait des coups de pression sur l'aspect, en tout cas des pressions financières. Haïti a dû être, comme tous les pays des Caraïbes, une manne financière sur le plan touristique. C'est-à-dire que les Américains ont dû avoir une maison secondaire là-bas, auraient dû profiter de cette havre de paix qui ne l'est pas. C'est un territoire qui terrorise, donc personne ne veut y aller. On a connu aussi la période des réfugiés, qui est liée à l'histoire tragique de ce pays. Comme disait le confrère, des chefs d'État totalement farfelus, qui n'ont pas aidé à la constitution d'un État digne de ce nom.
Mais quand on voit aujourd'hui les gangs, la place qu'ils occupent, est-ce qu'il ne faut pas composer avec eux désormais?
Non, il y a des négociations. D'autres pays d'Amérique latine ont connu ça. On a eu les FARC en Colombie. On connaît ces zones de non-droit. Mais maintenant, la corruption a participé. Le vrai problème d'Haïti, c'est que les acteurs politiques aussi officiels, on ne sait pas si eux-mêmes, on ne peut pas les qualifier de gangsters. Parce que c'est extrêmement grave d'en arriver là.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairés sur les principaux sujets de la semaine. Merci à Fatim Djedjé, Oussénou Narguey et Thierry Kabundi. Merci à tous les trois. Merci évidemment à toutes les équipe du débat africain, Delphine Michaud à la coordination et Taguim Fratraoré à la technique et à la réalisation. La semaine prochaine, vous aurez le bonheur de retrouver Namouri Dosso à ce micro pour de nouveaux points de vue africains sur l'actualité. En attendant, vous pouvez bien évidemment réécouter l'émission sur l'application RFI Pure Radio et sur les réseaux sociaux Facebook et X. Très bon dimanche à tous, merci à vous et à très vite.